Mega combi.
Ouais, j'ai plus beaucoup de batterie. On est à Maubert Mutualité là. On va pas très vite hein. Pour l'instant les flics sont d'accord, il n'y a pas de stress quoi pour l'instant. Tu nous rejoins ?
Agressé par des skinheads en plein cœur de Paris, Clément Méric, un militant d'extrême gauche de 18 ans, est en état de mort cérébrale. La rixe a eu lieu hier près de la gare Saint-Lazare. Selon les témoins, un groupe de 4 jeunes dont la victime a été prise à partie par 3 autres jeunes de type skinhead. L'ensemble du monde politique, toutes tendances confondues, a vivement condamné cette agression.
Quelques centaines de personnes en manif sauvage dans Paris. Un groupe motivé a réussi à emmener une partie du rassemblement qui était stationné place Saint-Michel. On va se balader un peu en hommage à Clément, mort hier soir, assassiné par des fachos.
Antifascistes, nous sommes antifascistes radicaux, pour la dignité des hommes, et pour qu'ils soient tous égaux. Antifascistes, nous sommes antifascistes radicaux, pour la dignité des hommes, et pour qu'ils soient tous égaux.
Every Wednesday. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
Tu es sur Mega Combi aussi, tu écoutes Mega Combi.
Ok, c'est parti.
Tous les mercredis à 18h.
Mega Combi, Prime Team.
C'est le prime time de Mega Combi.
Je crois que c'est la Prime Team de Mega Combi, non?
Le team de Mega Combi.
À 18h ce mercredi.
Fasciste, assassin, état complice.
Mega Combi, reportage.
Il y a tellement d'histoires à Lyon, de bastons, d'agressions par des identitaires, qu'en fait, il aura fallu un mort pour qu'on en parle.
Oui, les faits se sont déroulés ici. Entre 18h et 19h, tout débute par des invectives, des bousculades, des échanges de mots entre deux groupes de jeunes gens. D'un côté, la victime et ses 3 amis venus ici assister à une vente de vêtements privés. De l'autre, un groupe de 3 skinheads. Et c'est au moment en fait où la victime sort de ce magasin que les coups partent. Le jeune homme de 19 ans, étudiant, syndicaliste étudiant, militant d'extrême gauche, est alors frappé par l'un des skins avec un poing américain. Il chute au sol et heurte un plot. Il serait en état de mort cérébrale.
Mega Combi, reportage.
Une affaire d'extrême droite contre extrême gauche. C'est ce qu'a dit la police qui parle d'une agression à connotation politique. Un rassemblement en hommage à Clément sera tenu ce midi devant.
Jeudi 6 juin 2013, Lyon, place de l'Opéra. Rassemblement à la mémoire de Clément.
C'est malheureusement c'est quelque chose qui, quand on connaît le contexte politique actuel, notamment ce qui se passe sur Lyon, moi c'est quelque chose qui ne me surprend pas, enfin le décès d'un militant d'extrême gauche attaqué par des militants d'extrême droite, et qui m'horrifie. Moi je sais ce qui se passe à Lyon depuis quelques années, on sait que l'extrême droite s'active de plus en plus, qu'elle est agressive. Et elle multiplie les agressions dans le vieux Lyon et en dehors sur des bars connotés à gauche ou à l'extrême gauche. Les pouvoirs publics ne font pas grand-chose, on va dire. Alors, en tout cas, en France, à l'heure actuelle, depuis quelques années, c'est la droite, c'est l'extrême droite qui agresse, c'est l'extrême droite qui est raciste, c'est l'extrême droite qui s'en prend à des gens physiquement, verbalement, sur leur faciès, leur religion, leur habillement, et pas l'extrême gauche. Voilà. Si on prend les faits policiers, c'est ça qui recense la délinquance. Qu'on me sorte les chiffres ces dernières années d'agressions de mecs d'extrême gauche et d'agressions de mecs d'extrême droite. Voilà. En sachant que le bilan est absolument catastrophique, puisqu'on parle de 40 agressions, de tentatives de meurtre, 500 jours de RTT sur la dernière année à Lyon, venant de groupuscules d'extrême droite. Et encore, tous les faits n'ont pas été signalés. J'étais témoin d'une agression légère de quelqu'un qui s'est fait taper dans un bar du Vieux-Lyon, qui a refusé de porter plainte. Avec ma tête un peu de gauchiste ou d'un télo, personnellement, moi je commence un peu vraiment à avoir peur de tomber sur une bande de 3-4 loulous et de me faire défoncer la tête. Ça c'est une réalité personnelle. Que le contentieux qui existe à Lyon entre extrême gauche et extrême droite est lié il y a quelques années à une manifestation pacifique qui a eu dans la préfecture pour, je pense c'était pour défendre des sans-papiers. Les mecs d'extrême droite ont pu passer le barrage de flics, sont venus taper les manifestants, les rosser, devant le regard complaisant des flics qui ne sont pas intervenus et qu'ils ont laissé partir. Voilà. Et depuis, on sait très bien qu'il y a forcément il y a un contentieux.
C'est comme si maintenant ils avaient l'impression, enfin, c'est pas le gouvernement ou la société leur donnait une certaine légitimité, exactement. Ouais, et ils se sentent légitimes d'utiliser la violence contre autrui.
Il faut juste ne pas leur laisser l'espace, occuper la rue, et voilà, et s'organiser pour faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent plus. Et dès l'instant où ils sont minoritaires dans la rue, on les en entendra plus parler, quoi. Moi, je suis pas pour les interdire ou je sais pas quoi, parce que de toute façon, ils se reconstitueront autrement, ils seront toujours là. Et on va leur donner des raisons pour les victimiser et se dire, bah regardez, on nous interdit, nanana, et donc ils vont être encore plus radicaux. Autant qu'on sache qui ils sont, qu'ils soient organisés, au moins on peut avoir un œil sur eux et c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, et la solution est juste, il faut s'organiser, occuper la rue et être vigilant à ce qui se passe, voilà. Quand il y a un groupe d'extrême droite qui se balade dans la rue, bah en face, il faut qu'il y ait des gens, puisqu'eux s'organisent en milice pour fracasser des gens, et bah faut qu'il y ait des gens qui soient organisés en milice pour protéger ces mêmes gens. C'est le travail de la police, mais la police ne fait pas ce travail-là. Enfin voilà, quand il y a des manifestations et des contre-manifs, c'est les militants d'extrême gauche qui sont arrêtés, comme ça s'est passé récemment dans le 6e. Bah voilà, enfin je veux dire, à un moment donné, c'est la police qui est censée assurer la sécurité de chacun. On sait très bien que dans le Vieux-Lyon, par exemple, ça craint, elle continue sur les agressions, elles continuent. Les mecs sont pas surveillés. Tu peux passer les vendredis soirs à la Traboule, c'est plein à craquer. On sait très bien que quand les mecs ils sortent, ils partent en chasse. Et tu trouves pas un flic qui se balade dans le quartier. T'en trouves pas un. Donc voilà, la solution, elle est là. Hein. C'est pas... Puisque les flics sont pas là, bah, à un moment donné, je parle pas d'agresser. Hein. Moi, je dis juste, bah, ils s'organisent en milice. Bah faisons des veilles citoyennes et occupons la rue pour pas leur laisser à eux, quoi, c'est tout.
Moi je suis pas un antifa comme l'a pu l'être cette personne. Moi voilà, je suis un antifa par des actions, par ma façon d'être et par mes convictions. Disons qu'il y a pour moi il y a eu des dérives, notamment du côté de la manif pour tous, avec certaines phrases, un certain laisser-aller qui a fait qu'aujourd'hui, bah, certaines personnes ont l'impression, pas d'être tout puissant, mais d'être dans une dynamique. On voit notamment avec le printemps français, etc., qu'il y a une sorte de dynamique un petit peu borderline, et du coup, bah, cette borderline, on l'a franchie. Aujourd'hui, il y a un mort, et ce mort-là va peser beaucoup dans les prochaines semaines, et que le moindre faux pas d'un camp comme de l'autre peut engendrer beaucoup de choses. Je pense que c'est pas pour rien s'il y a eu autant de politiciens qui ont pris la parole, notamment le président de la République en déplacement au Japon sur cette histoire. Ça montre bien qu'il y a une inquiétude et une intention de calmer les événements avant que ça ne dérape trop loin. Quand je dois aller dans le Vieux-Lyon, par exemple, j'ai une certaine inquiétude parce que j'ai une typologie de gauche et j'ai un peu peur de me faire d'avoir des problèmes dans le Vieux-Lyon. On sait qu'il y a le local de la Traboule qui est pas très loin. La dernière fois que je suis allé dans le Vieux-Lyon, ma hantise c'était de passer devant la Traboule et de me faire emmerder. Je trouve que en réalité la violence n'engendre que la violence, donc on n'apporte pas de débat. On le voit bien en Afghanistan. On y est allé pour régler un problème de paix. On s'aperçoit aujourd'hui que le problème de paix il est loin d'être réglé et on désengage les troupes en sachant pertinemment que quand il n'y aura plus de troupes, on va se retrouver dans la même situation qu'avant-guerre.
Bien, c'est les réseaux fascistes, les réseaux ultra-cathos, ils ont continué à tourner pendant des années. C'est juste que maintenant il y a la crise, elle joue et forcément ils ont le vent en poupe. Ils trouvent un terrain où se faire entendre et ils en profitent. Mais là aussi encore c'est pareil. Hein. La question du mariage pour tous aurait pu être réglée hyper rapidement, mais il y a eu un jeu aussi de laisser traîner les choses et de donner le pignon sur rue aussi aux groupes fascistes.
Ça me fait peur parce que des choses deviennent extrêmes, que des gens, on était allés jusqu'à tuer quelqu'un, ça c'est grave, ça c'est vraiment grave. Je trouve que d'en arriver à y vivre ensemble avec des gens qui sont différents que nous, c'est l'avenir. Parce que si on n'arrive pas à faire ça, qu'est-ce que va être le monde? Alors quand on y pense, 7, 8, 9 milliards d'humains qui ont tous besoin de manger, je ne sais pas où est-ce qu'on va avec ce genre de séparation. En tout cas, pour revenir sur l'histoire de Lyon, c'est une ville que je trouve assez exceptionnelle à la fois, parce qu'il y a vraiment des gens très différents, très divers, qui vivent un juste à côté de l'autre, bien que des fois, ils ne se communiquent pas trop entre eux, mais on vit en paix, tranquille ici. Ce genre d'histoire me fait peur, parce que je n'ai pas envie que ça devienne une ville qui a des groupes extrémistes qui va se taper dessous pour des idéologies politiques. C'est triste. Je m'en doute qu'ils n'ont même pas discuté encore la profondeur des sujets pour savoir que ça vaut la peine de s'entretaper encore. Il n'y a pas de mystère, quoi. Il faut communiquer, il faut accepter la différence des autres et éviter à tout prix la violence, quoi. Pour tout problème, la solution, ce serait quelque chose qu'on doit étudier, se pencher sur le sujet, réfléchir. Donc, pareillement, dans plein de domaines de la vie, on reste ignorant à des choses. Mais je pense que c'est pas une bonne chose de stigmatiser des gens, à se dire que cette personne est fasciste. Non, cette personne fait le fasciste, cette personne se trompe. Ils n'ont pas compris le génétique. S'ils pensent qu'il y a un truc supérieur génétique, nous, on reste supérieur ou des choses comme ça. Peut-être, comme avec l'intelligence, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas qu'est-ce que l'intelligence d'un point de vue scientifique. On a une intelligence émotionnelle, une intelligence spatiale, etc. Et c'est justement les gens qui sont différents que nous, qui ont une autre perspective sur les choses, qui vont pouvoir nous ouvrir l'esprit. Tous nos problèmes, pour moi, c'est vraiment apprendre véritablement qu'est-ce que le problème, sans se biaiser dans les opinions politiques ou personnelles, avoir un critique, un regard, reculer sur les choses, et là, on peut identifier le problème comme il faut. Quand on a identifié le problème comme il faut, on peut réagir comme il faut. Et c'est un peu le drame de nos jours, je pense, parce qu'il n'y a pas grand monde qui cherche.
On va boire l'apéro, on va faire des bonnes bouffes, on va rigoler, et puis on construira autour de nous. Peut-être même qu'on va faire un peu de politique, parce qu'on voudrait toujours y croire à cette société-là, celle qui est tolérante et qui accepte l'autre, avec ses différences. Nous sommes tous imparfaits, tous dépendants d'une chose ou d'une autre, tous sujets à la haine, à la violence, mais aussi tous sujets à l'amour, même si on ne sait pas d'où l'on vient, même si on ne sait pas où est-ce qu'on va. Nous savons qu'une chose, c'est que la mort ne frappe qu'une fois, et que la vie en est d'autant plus précieuse. La bêtise règne. L'ignorance assiste l'endormissement de la masse, les choix ont un impact. Quel est ce monde où la vie n'a plus aucune valeur? Sous prétexte de tolérance et de notre démocratie, nous laissons des choses se dire et se faire. L'humain manipule, il est sujet au pouvoir, il est grand temps de décider de notre avenir. À ceux qui ont les clés en main, et peut-être que chacun d'entre nous les avons, réfléchissez à ce que vous voulez pour cette société, car elle a besoin d'évoluer, besoin de s'unir sur de grandes questions, telles que ce que l'on fait sur cette planète. Comment occupe-t-on notre temps? Au service de quoi? Au service de qui? Les mots ne se feront pas. À la mémoire de Clément.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers of my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then will come from the shadow.
Les Allemands étaient chez moi. Ils me disent résigne-toi. Mais je n'ai pas peur. J'ai j'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then will it come from the shadow?
Clément Maric n'est pas mort parce qu'il était d'extrême gauche. Il est mort parce qu'il affirmait haut et fort qu'il était contre le fascisme. Clément Maric n'est pas mort parce qu'il allait acheter des fringues Fred Perry, mais parce qu'il ne supportait pas le racisme. Clément Maric n'est pas mort dans une baston de rue. Il est mort parce que le fascisme tue. On n'oublie pas, on pardonne pas. Depuis la mort de Clément, il y a eu des rassemblements un petit peu partout en France. Il y a eu beaucoup de monde pour lui rendre hommage. Des gens très émus. Et même la presse et le gouvernement ont un petit peu réagi. Jean-Marc Ayrault a dit qu'il voulait dissoudre certains groupes d'extrême droite. Il aura quand même fallu un mort pour que ces gens-là se réveillent un peu. Et pourtant, ils ont quand même une grande part de responsabilité. Puisque les gens qui nous dirigent depuis des années n'ont jamais rien fait dans leur politique pour empêcher que les fachos progressent. Le quinquennat de Sarkozy a été une véritable promotion des idées d'extrême droite et l'équipe de son successeur n'a pour l'instant pas encore prouvé qu'elle était différente, ne serait-ce que sur les Roms et les sans-papiers. Et puis à Lyon, notre bon maire socialiste depuis 2001, lui non plus n'a jamais pris au sérieux les alertes lancées, notamment par le collectif de vigilance contre l'extrême droite, qui recense les agressions violentes dans le Rhône des groupes de fachos depuis plus de 4 ans, et il y en a eu. Et alors ce cher Gérard Collomb, je sais pas s'il a fait exprès, mais il est sorti de son château juste pendant le rassemblement d'hommage à Clément jeudi soir à Lyon. Et ce rassemblement avait justement lieu devant la mairie. Donc il a été logiquement pris à partie par quelques manifestants. Il a dû faire appel à la BAC pour s'exfiltrer. Mais il n'a rien eu, hein. Les manifestants l'ont pas touché, ils étaient loin de lui. Il a juste reçu quelques colibets. Et il a quand même déclaré suite à ça, c'est rapporté par Lyon Mag et repris par Rebellion, je cite « J'appelle à ce que Lyon redevienne une ville de paix et je souhaite bannir toute forme de violence et de haine dans la municipalité. » Et il va jusqu'à porter plainte contre les Antifa. 4 ans d'agressions fascistes dans sa ville, dont certaines ont plongé des gens dans le coma. Aucune réaction. Une manif Antifa, on voulait juste lui demander des comptes. Il convoque les tribunaux. Si vous êtes nazi à Lyon, vous pouvez vous balader tranquille de Saint-Jean à Gerland. Et c'est pas le cas de tout le monde. On revient sur quelques exemples d'agressions à Lyon ces dernières années avec la rediffusion d'un reportage de la Méga Combi qui date de décembre 2011 et qui s'appelait justement de Saint-Jean à Gerland.
Méga Combi, rediffusion.
Alors où vous m'emmenez là?
Dans une traboule du Vieux Lyon. Ces traboules sont des lieux de passage entre une rue et une autre. Et là, il se trouve que c'est la traboule principale du Lyon qui mène dans 3 cours successives, absolument magnifiques, de la rue Saint-Jean à la rue du Bœuf. On parle doucement parce que ce sont des lieux où il y a des habitants et qu'il ne faut pas gêner non plus. Il se trouve que ce sont des lieux où on entend tout, même les secrets les plus inavoués. Donc on essaye d'être discret lorsqu'on traverse les traboules d'une rue à une autre.
Ah, le vieux Lyon, la primatiale Saint-Jean, ce vieux quartier à l'architecture du Moyen-Âge qui a vu passer les siècles et qui offre toutes sortes d'attractions, allant de passages typiques lyonnais, les Traboules, aux gourmets des bouchons, à la gastronomie généreuse, en passant par l'hôtel des loges avec son identification des clients par la biométrie. Le tout dans des rues aux pavés typiques, protégées par des caméras. Bref, à Saint-Jean, vous passerez, chers touristes, un séjour au cœur d'une cité historique tout en étant dans une sécurité moderne et absolue.
Méga Combi, reportage.
On est rue Juivry, là ?
Oui, Juivry, qui est une rue chargée d'histoire. C'était la rue la plus ancienne de Lyon, enfin, en tout cas la plus large. La rue Juivry était une rue italienne. Après avoir été une rue des Juifs, elle est devenue une rue protestante. Il y a un temple protestant pas très loin. Il y a même donc eu une synagogue dont on peut encore deviner les traces. Et pour nous, c'est une histoire qu'il faut respecter. Il n'y a pas très longtemps, les plaques de la rue Juivry ont disparu pour deux d'entre elles. Puis la troisième a été vandalisée avec des inscriptions à caractère antisémite. Ce genre d'acte a une répercussion politique en termes de violence particulièrement grave, oui. Henri, je suis habitant du Vieux Lyon. Mes parents, mes grands-parents, arrière aussi, habitaient dans le quartier. Donc c'est pour nous un lieu important. On est confronté à une série d'événements à caractère violent, qui gênent beaucoup les habitants, les commerçants, et qui sont le fait de personnes plutôt jeunes, d'une trentaine d'années, qui se battent dans la rue, qui s'expriment en réunion avec des gestes comme le salut nazi, par exemple, et lors d'une manifestation qu'ils avaient organisée, autorisée par la préfecture, ils ont arpenté les rues de Saint-Jean, en prenant à partie violemment des personnes, des commerçants notamment, en cassant des vitrines et en renversant des étalages, en menaçant les personnes, sous prétexte que leur commerce sont des chiches kebabs.
Bah, je m'appelle Ali et j'étais au kebab le 14 mai, le jour de la manifestation des extrémistes. Je crois que c'était une manifestation anti-halal. Je savais, moi-même je savais pas qu'il y avait une manifestation comme ça. Et on m'a prévenu le matin même, on m'a prévenu qu'il y aurait une manifestation comme ça. J'y croyais pas trop, quoi. J'y croyais pas trop dans le sens où c'était pas dangereux, quoi. C'était une manifestation comme ça arrive tout le temps. Même je peux dire qu'à un moment je servais des clients qui venaient d'Angleterre. Et qu'en fait que sur leur t-shirt, en fait, derrière, il y avait c'était écrit Ligue anglaise qui est pour le cochon. Et qu'ils étaient venus ce jour-là manger au kebab. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que j'ai entendu des gros bruits. J'ai vu tout le monde courir dans le même sens. Et moi, j'ai rien compris. J'ai fermé à clé le restaurant. Bon, il y avait la terrasse qui était dehors. Le kebab était bien visible. Hein. Au début, c'était pacifique. Je sais même plus ce qu'ils disaient. Moi, j'étais un peu sous le choc. Parce qu'à partir d'un moment, en fait, ça a commencé par des insultes. Bah, nique ta mère, par exemple. Après, sale turc, parce que je suis d'origine turque. Et après, à partir d'un moment, ça a commencé à... Il y a quelques personnes qui, en fait, qui ont pris la terrasse d'à côté, qui l'ont jetée sur la vitre. Après, la terrasse entière, en fait, qui s'est retrouvée contre le kebab, en fait. Ils ont vidé toute la terrasse, en fait, sur la vitre, tout ce qui est vitre, vitrine. Et voilà, ils sont passés et... J'étais devenu tout blanc ce jour-là, de toute façon, jusqu'à au moins le soir, jusqu'à 8h, j'étais blanc, blanc, blanc de peau, un peu choqué. Après, je suis sorti du restaurant, j'ai appelé la police. Ils m'ont rien dit de spécial, ils m'ont dit on passera ce soir. J'ai dit mais il paraît qu'il y a un risque qui repasse. Ils m'ont dit que oui, mais non, on va passer ce soir pour voir constater les dégâts. Ça leur a pas pour... Je crois qu'ils s'y attendaient, quoi. Ils s'y attendaient que quelqu'un appelle pour dire ça, mais... Ils ont dit on va venir constater les dégâts, c'est tout. Et mon frère n'a pas porté plainte, en fait. Le resto n'a pas porté plainte parce que c'est des choses classées sans suite. Parce qu'il y a eu un restaurant juste à côté. Il a porté plainte, il a perdu du temps, en fait, et de l'argent. c'est toujours classé sans suite. Il n'y a pas de preuves, quoi. Ici, il y a des preuves, mais comment dire, il n'y a pas quelque chose de concret. Et donc, mon frère, il a dit, bah, une vite, c'est 80 euros. Tu payes 80 euros et voilà.
Méga combi, rediffusion.
On ne voit pas vraiment de contrôle s'effectuer lorsqu'il y a des violences qui sont perpétrées. Une seule fois la police, enfin visiblement une fois la police est intervenue au bout de 3 heures de violence dans la rue Juivry et dans le quartier de Saint-Paul avec une voiture banalisée. Moi je les ai vus qu'une seule fois. Ça fait quand même très peu. Pourtant, les gens qui habitent dans cette rue Juivry et qui y travaillent ont été confrontés à des manifestations de rue très violentes. Visiblement improvisé, sans autorisation, partant de la montée du change le long de la rue Juivry jusqu'à la place Saint-Paul, où les gens se sont battus à coups de barre de fer, où des groupes de personnes, d'une trentaine de personnes, couraient après d'autres personnes. On n'a pas très bien saisi, évidemment, c'était très dangereux de poser des questions à ce moment-là, ou même de sortir ne serait-ce qu'un pied. Il y a un commerce à l'extrémité de la rue Juivry qui est un bar oriental qui a été entièrement vandalisé, entièrement détruit jusqu'à la plomberie. On s'est rendu compte d'ailleurs que le commerce avait été vandalisé notamment parce qu'il y avait une inondation qui partait dans la rue. Donc c'est à ce moment-là que la police a été interpellée. Et quand la police a ouvert le lieu, ainsi que les pompiers, on a vu clairement, tous les gens qui étaient là, les témoins, les habitants notamment, qu'il y avait des croix gammées peintes sur les murs du local commercial. Des croix gammées et une phrase notamment qui disait « Hitler n'a pas fini son travail ».
Ces faits de violence, c'est quelque chose de nouveau dans le quartier?
Oui, c'est relativement nouveau, hein. Ça correspond au moment de l'installation de quelques personnes dans un local qui sert aujourd'hui d'endroit de propagation d'idées à caractère identitaire. La traboule, on parlait des traboules, vous voyez, il y a des traboules de bonheur et il y a des traboules d'horreur.
La traboule d'horreur, comme dit Henri, c'est donc le local des jeunes identitaires qui se situe montée du change dans le vieux Lyon. C'est un local qui est ouvert il y a plus d'un an, c'est un local où on peut prendre des cours de boxe, où on peut assister à des conférences de personnalités comme Jean-Yves Le Gallou, ancien membre du FN, qui s'est notamment illustré en signant des pétitions de soutien à des négationnistes aux côtés de Forisson. C'est un local où il y a une bibliothèque où on peut lire des livres islamophobes, des essais d'Éric Zemmour, qui a été condamné pour propos racistes, ou d'Henri de Fersan, qui lui a été condamné pour révisionnisme. C'est donc le local des jeunes du bloc identitaire, un groupe fondé sur les centres d'unité radicale qui avait été dissous suite à la tentative d'assassinat de Jacques Chirac par Maxime Brunnery, un de ses membres. Et le bloc identitaire est aujourd'hui présidé par Fabrice Robert, ancien élu du FN mais aussi du MNR de Bruno Maigret, et Fabrice Robert a aussi été condamné, lui, pour négationnisme. Donc on est bien là face à un mouvement d'extrême droite radicale à la droite du FN, malgré ce que voudraient nous faire croire leurs dirigeants, qui parlent de tradition du coin, de localisme, de vie de quartier, de défense du saucisson, etc. Alors les identitaires ne veulent pas être associés aux violences d'extrême droite, mais on a bien vu que lors de la manif qu'ils ont organisée le 14 mai dernier, une manifestation nationale, il y a eu une multitude de manifestants qui arboraient le salut nazi, il y a eu des violences comme l'attaque du kebab d'Ali, et puis plus tard dans la soirée on pouvait recenser des agressions à caractère raciste un petit peu partout dans la ville. Et puis on l'a dit, les agressions à caractère fasciste se multiplient à Saint-Jean depuis l'installation du local des identitaires. En tout cas, ces violences commencent à sérieusement énerver les habitants du Vieux-Lyon, comme Henri, notre guide, mais aussi les artisans, les commerçants et les associations de quartier. Ils essaient tant bien que mal d'alerter les pouvoirs publics, mais pour l'instant, que ce soit la police ou la justice, pas trop de réactions. D'où cette question, est-ce que l'État et ses gouvernants n'auraient-ils pas une part de responsabilité dans tout ça?
C'est tout simplement... un effet des discours qui se prononcent depuis plusieurs mois sur le thème de l'identité nationale. C'est normal qu'après il y ait le contre-coup de ces discours-là et qu'il y a des gens qui se sentent suffisamment forts pour extrémiser ce discours et pour le transformer sous un angle violent, sous l'angle de la répression envers des personnes qui sont dites d'identité différente. L'identité nationale,
on ne fait pas le
français d'un jeune musulman.
Nadine Morano.
Ce que je veux, c'est qu'il se sente français lorsqu'il est français.
Ministre.
Ce que je veux, c'est qu'il aime la France lorsqu'il vit dans ce pays. C'est qu'il trouve un travail. C'est qu'il parle pas le verlan. C'est qu'il mette pas sa casquette à l'envers.
Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est vrai que l'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements, pose problème.
Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable.
André Valentin.
Et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
UMP.
Il y a déjà 10 millions, hein ? Il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre.
Il n'est pas normal que dans les cités, je vous dis, il y ait des caïds qui imposent leurs lois.
Chantal Brunel.
Il n'est pas normal, mettons, que sur la polygamie, on n'avance pas.
UMP.
Il n'est pas normal qu'on ne rassure pas les Français aussi sur toutes les populations qui viennent de la Méditerranée. Après tout, remettons-les dans les bateaux. Remettons-les dans les bateaux.
Bah moi, je suis né en France.
Reportage.
À ce qu'on m'a dit, quand on est en France, on est français. Droit du sol, je crois, si je m'en rappelle très bien. J'ai été à l'école en France, j'ai grandi en France. Bon, après, c'est indéniable que j'ai des origines turques. Moi, mes parents ne sont pas français, mais turcs. À la maison, on parle turc, mais sinon, dehors, je parle français, quoi. Je suis français, ouais.
Et qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui disent « emballez vos kebabs et votre bouffe halal » ?
Ça fait un peu renfermé sur soi-même. Ça fait penser au nazisme un peu. C'est comme si le français était tellement bon que s'il se mélange... C'est comme les pures races dans les chevals de course. Ils sont tellement beaux, tellement bien qu'il ne faut pas que ça se mélange, il ne faut pas qu'il y ait d'autres. Ça fait peur. Hitler, il est mort, mais ses idées sont toujours là.
Les gens qui ont attaqué le kebab ce jour-là, enfin cette manifestation, vous assimilez vraiment ça à Hitler, aux nazis, pourquoi ?
Ben, parce que déjà, au Vieux Lyon, il y en a beaucoup de comme ça. On les voit, en fait, c'est des grands costauds, grands gaillards, crâne rasé. Et il y en a certains qui ont de croix gammée, hein, qui s'en cachent pas. Moi, par exemple, quand j'étais au kebab, j'avais vu 2-3 clients, en fait, des habitués, c'était des gothiques, hein, qui se sont fait tabasser par ces personnes-là, alors qu'elles étaient françaises, hein, ça, il n'y avait pas de souci. Mais je crois qu'ils ont un espèce de filtre ou je sais pas quoi, qui veulent que des Français soient comme ça, et pas autrement.
Megacombi rediffusion.
Je vais plus du tout dans le Vieux-Lyon depuis l'année dernière, là, depuis notre agression le 6 mars. Denis, donc militant syndicaliste à la CNT, la Confédération Nationale du Travail à Lyon. Le 6 mars, on était j'étais au restaurant avec deux amis. Quand on est sorti du restaurant, on allait prendre le métro à Saint-Jean et en fait, à un moment, on a entendu crier derrière nous. On s'est retourné et là, on a vu 10 à peu près une dizaine de personnes, crâne rasé, il y avait des mecs qui avaient des chaînes de vélo, des canettes, tout ça. Et en fait, une des personnes est tombée, ils se sont mis au sol, ils l'ont tapé. Après, moi je me suis fait aussi taper, je suis tombé au sol et j'ai pris aussi des coups au sol. Ça a duré très peu de temps, ça a duré peut-être même pas une minute. Donc là, c'était un peu la panique, même tous les gens qui étaient autour, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, c'était à 11h30 du soir. Il y avait des gens qui ont commencé à crier, tout ça, et en fait, ça a duré. Ouais, je te dis une petite minute et après ils se sont sauvés en courant, ils sont repartis certainement dans un bar.
Ils vous ont expliqué pourquoi tout d'un coup ils s'acharnaient sur vous?
Ah non, pas du tout, le seul truc c'était décrit comme Lyon c'est fasciste et des saluts nazis, des zigailles qui criaient et c'est tout. J'ai eu 3 jours ou 4 jours d'ITT, j'ai eu des hématomes un peu partout sur le corps. Les autres, celui qui était le plus touché, il a eu, je crois que c'est 14 points de suture au niveau du crâne, et puis le pouce cassé, et lui il avait vraiment des hématomes partout, avec vraiment des gros cocards au visage.
Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme suite quand vous avez porté plainte? Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a amené des éléments? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été condamnés? Comment ça s'est passé?
Ouais, il y a eu une enquête parce que, outre le fait qu'il y avait une violence en réunion, cette violence en réunion était suivie d'un vol, parce que un des camarades qui était avec moi ce soir-là, il avait un ordinateur portable, et cet ordinateur portable, il s'était fait voler. Donc il y a eu une enquête. Ils nous ont montré plusieurs photos, on a vu plusieurs personnes derrière des vitres, et en fait, il y a une personne qui a été reconnue formellement, une autre aussi... quasiment formellement. Et malgré tout, l'affaire elle a été classée sans suite par le procureur quelques jours ou quelques semaines après. La préfecture, elle se complaît dans un discours, c'est des bagarres entre l'extrême gauche et l'extrême droite, alors que les violences, il n'y en a eu que d'un seul côté, il n'y a eu aucune violence connue de la part de l'extrême gauche sur ces personnes-là, alors que ça se compte par dizaines, le nombre de jours d'ITT, il se compte par centaines sur Lyon, et pour l'instant, on sent bien qu'il n'y a pas la volonté politique de les arrêter. Lyon, c'est assez particulier, parce que je pense qu'il y a... Une agrégation entre différentes choses, entre l'extrême droite plus politique autour des jeunesses identitaires, autour de différents groupuscules, et aussi tout ce qui est de l'extrême droite des stades avec le hooliganisme. Et je pense que c'est une agrégation de toutes ces choses-là qui font qu'il y a une résurgence très forte et une présence très importante sur la ville de Lyon actuellement. On l'a vu aussi dernièrement avec... une personne qui s'est fait arrêter au stade parce qu'il avait fait un salut nazi.
On quitte la pause et maintenant les supporters.
Stade de Gerland, printemps 2010.
Pas les plus calmes, donc surtout ce soir là, c'est gros risque. Hein,
ouais, c'est pour ça qu'on bouge.
T'as entendu les insultes qu'ils nous ont dit?
Ils nous ont demandé de nous couper les cheveux, ils nous ont insulté, ben, plus avec cette sale gauchiste. Voilà, plusieurs choses sympathiques.
Voilà, c'était donc une prise de son d'ambiance de stade à Gerland avec un camarade. On était sur la pelouse et depuis leur cage, les bad gones nous ont traités de fils de pute, de sale gauchiste, au prétexte qu'on avait les cheveux un petit peu trop longs à leur goût. Bref, comme à certains endroits de Saint-Jean avec les supporters de l'OL, il faut parfois être vigilant.
Radio Canu.
Alors je m'appelle Foued.
Reportage.
J'aime bien le foot et puis l'OL en particulier puisque c'est le club de ma ville. Et le 21 mars 2010, pour être précis, avec mon petit frère, un cousin et son beau-père, on décide d'aller voir le match Marseille-Lyon, donc au stade Vélodrome, en prenant des billets à Lyon, donc pour faire partie des supporters lyonnais. Donc on se dirige à l'heure prévue, autour de 19h30, à la tribune réservée aux supporters lyonnais. Et puis là, la particularité, c'est qu'on est d'abord, avant de rentrer dans le stade, entassé dans un sas qui est protégé, enfin surveillé par des forces de police qui procèdent aux fouilles traditionnelles avant de pouvoir accéder au stade.
Vous êtes dans un sas avec que des lyonnais?
Que des supporters lyonnais. Puis c'est là que ça commence, quoi. Ils arrivent en faisant beaucoup de bruit, alors jusque-là, il n'y a pas de problème, mais en fait, c'était... plutôt des chants racistes, à vrai dire. Première, deuxième, troisième génération, on a toujours mangé du cochon, un truc comme ça. Et puis là où les vraies insultes ont commencé, c'est un peu plus tard, c'est quand on est rentré dans le stade, le groupe de personnes qui est arrivé après nous, en rentrant dans le stade, mais la première chose qu'ils disent, sale bougnule. Mais c'était pas dirigé envers nous, c'était dirigé envers les supporters marseillais qui avaient juste en face, dans la tribune d'à côté. Et là, en fait, on s'est tout de suite senti mal à l'aise, donc on a demandé à un stadier de quitter l'enceinte, on voulait vraiment partir. Et il nous a tout simplement dit que c'était pas possible. Qu'à partir du moment où on était rentré dans le stade, on pouvait plus en sortir. Toutes les personnes qui étaient physiquement, entre guillemets, différentes, donc il y avait quelques maghrébins avec nous, et puis peut-être deux, trois personnes noires, donc de couleur, on a tous eu le même sentiment, on s'est tous retrouvés au même endroit, donc tout en haut de la tribune, contre la barrière, et pas très loin de la sortie, en fait. Donc, on était quand même bien installé pour regarder le match, mais on appréhendait quand même largement la mi-temps. Et effectivement, ce qui s'est passé à la mi-temps, c'est que tous ces supporters qui étaient plutôt en bas de la tribune sont remontés, et puis comme on n'était pas très loin de la sortie et de l'accès aux buvettes et aux toilettes, ils sont tous passés devant nous en nous regardant d'un air menaçant et en nous bousculant d'une manière systématique. En fait, et donc nous on n'avait pas trop le choix, on essayait de pas trop réagir et pas trop croiser leur regard. Et donc peu de temps après, en fait, il s'est passé que un jeune, donc on peut le dire d'origine maghrébine, qui est parti aux toilettes et qui s'est fait molester. Donc il est remonté dans la tribune en courant. Et là, très rapidement, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. Donc des coups sont partis, avec plein de gens qui vous poussent, des gens qui essayent de vous cogner, des gens qui essayent de vous mettre des coups de poing. Donc on s'en est sorti, moi, avec quelques... J'ai sûrement pris des coups, mais je ne les ai pas sentis, peut-être aux jambes. Mon frère qui s'est fait un petit peu... il avait un blouson, à la fin, il était complètement déchiré, son blouson. Mais oui, moi, je me souviens de scènes assez incroyables où... Où des jeunes se faisaient courir derrière par des dizaines de supporters et qui essayaient de l'attraper, oui. Donc moi je suis sorti évacué par les stadiers, donc j'ai pas pu voir la suite. Puis on s'est retrouvé vraiment parqué dans un coin et j'allais dire à ce moment-là en sécurité quand même. Quand les CRS sont venus nous chercher, ils nous ont vraiment pris pour les voyous en plus. Alors je me souviens encore du premier CRS qui vient nous voir en nous disant que s'il y en avait un de nous qui bougeait, il nous cassait les jambes. Donc il fallait qu'on le suive et qu'on dise pas un mot. Alors on est victime d'une agression et en plus à la fin on est pris pour les agresseurs parce que c'est peut-être encore les clichés qui sont encore là. Enfin, lorsqu'il se passe quelque chose et qu'il y a peut-être un blanc et un moins blanc, et ben c'est toujours les mêmes les coupables.
Je suis le chinois du 13e, l'algérien qu'on jette dans la Seine. Je suis le parigo tête de veau en vacances à Saint-Malo. Je suis le roumain du métro. Je suis le criminel, celui qu'on traîne par terre, de la sortie de l'école au charter. Je suis la mauvaise graine, le mauvais ADN. Et je ne joue pas au football. Je ne suis pas le bienvenu. Je ne suis pas le bienvenu. Je suis la cause de tous les maux, celui dont on cause au bistrot, le cauchemar des pères peinards, des pépères pinards, des Johnny Ricard qui parle sans savoir. De délires alcooliques en terreur médiatique et commérage de ménagères, je me transforme en bête sauvage. Je ne suis pas le bienvenu. Je ne suis pas le bienvenu.
Moi, quand je me balade à Saint-Jean, j'ai toujours mon protège-dents.
Moi, quand je me balade dans le vieux Lyon, je me demande pourquoi il y a autant de magasins de bonbons.
Moi, quand je me balade à Saint-Jean, j'entends les loups et je convoque le tigre.
H-A-T-E. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? L-O-V-E. The story of good and evil.
Méga Combi.
Méga Combi, rediffusion.
Rediffusion.
Berlin, juin 2012. Départ avec ma cousine, berlinoise d'adoption, vers un lieu étrange à l'ouest de la ville.
On va aller jusqu'à Nollendorfplatz.
Ouais.
Et puis après, on va prendre le S-Bahn. Alors, je sais pas lequel c'est, je pense qu'il y a le 7 et le 5. Jusqu'à Ehrerstrasse.
C'est mon dernier jour à Berlin. Pendant la semaine que j'y ai passée, j'ai suivi le mur, j'ai essayé de me figurer l'Est et l'Ouest, cherché des différences, vu des mémoriaux, celui du mur et de l'Holocauste, visité le musée juif. J'ai vu la topographie des terreurs, cette exposition sur l'ancien emplacement de la Gestapo et du ministère de la Sécurité sous le Troisième Reich. À côté de cette exposition, un no man's land hostile, mer de petits cailloux qui représente le vide. Rien ne peut y pousser, rien ne s'y passe, rien n'y sera construit. C'est une étendue au milieu de la ville qui, par la force de l'absence qu'elle représente, rappelle la présence sur cette place que les bâtiments nazis occupaient. Pas de doute, Berlin fait face à son histoire. Je me demande s'il est envisageable en France d'avoir une exposition autour de la collaboration, autour du régime de Vichy. Si ça a existé ou si ça existe, faites-moi signe parce que j'aimerais bien savoir. En tout cas, aujourd'hui, nous allons à Teufelsberg. Teufelsberg, ce sont deux collines qui culminent à 80 mètres, alors que Berlin est situé dans un territoire très plat, à environ 20 mètres d'altitude.
Et Véro, tu marches vite, avec tes grandes jambes.
En été, les Berlinois s'y promènent, admirent la vue qu'elles offrent sur Berlin, y font du vélo. L'hiver, ils y font de la luge et il y a même eu une petite station de ski dans les années 60. Ces deux collines sont des montagnes de gravats, de débris de la Seconde Guerre mondiale.
Après aussi les bombardements qu'il y a eu sur Berlin, je pense qu'à la fin de la guerre...
Tu marches toujours vite.
Berlin a dû être... Bien nettoyé, on va dire. Du coup, il y a très peu de vieux bâtiments. Et tous les débris, il fallait les mettre quelque part. Du coup, ils ont fait des collines.
Puis la montagne de débris fut recouverte de terre, de telle manière que la végétation puisse y pousser. Alors on marche dessus.
Oui, parce que là, on n'a pas l'impression que c'est une montagne artificielle, parce que on passe dans la forêt, il y a un petit chemin. Le seul truc, c'est que par terre... Il y a des cailloux, mais il y a aussi des morceaux de briques qui affleurent à la terre. Des morceaux de briques jaunes, rouges.
Et sous ces collines, un centre universitaire nazi. Les Alliés ont bien tenté de le détruire, mais le bâtiment montra une résistance exceptionnelle et aucune charge explosive ne parvint à le faire bouger d'un bloc. Alors, pour faire disparaître l'invincible et énervant bâtiment de guerre, il fut enseveli. Des briques, des poutres, des ardoises.
Eh ben on arrive pile en face. Alors attends, on arrive pile en face de quoi? De où qu'on va aller après.
Et on va où?
Là.
Ouais, d'accord.
Dans ce...
cette espèce de boule bizarre.
Voilà.
Et au sommet d'une des deux collines artificielles de Berlin, il y a un site un peu fou.
Alors, ça, il y a c'est... deux boules, trois boules.
Trois boules, voilà, c'est les antennes en fait. Qui permettait de capter les informations de Moscou. Parce que du coup, c'est ça l'observatoire américain.
Une tour blanche, avec à son sommet, une sphère qui ressemble à une balle de golf géante. Il y a trois autres sphères à côté, plus basses, et des bâtiments immenses. Ces tours ont été construites pendant la guerre froide par la NSA, donc la National Security Agency, organisme américain de collectage de toutes les formes de communication.
Et donc, qui permettait aussi d'envoyer... la bonne parole du bloc de l'Ouest, les émissions en fait télé.
Oui, parce que là on est dans Berlin Ouest.
Voilà.
Et donc ces antennes géantes permettaient d'intercepter les infos audio qui venaient de Berlin Est et en général à destination de Moscou. Une énorme station américaine d'espionnage. À la chute du mur, les radars ont été retirés et le centre fermé, mais les dômes et les bâtiments sont restés.
Donc là on arrive devant les grillages qui entourent les énormes antennes qui sont au sommet de la Teufelsberg. Et a priori, les grillages ne cessent d'être regrillagés puis réouverts. Et nous passons tels des personnes clandestines et illégales dans une zone, comment dirais-je,
post-apocalyptique.
Post-apocalyptique.
Les bâtiments sont défoncés ou brûlés, les toiles blanches du dôme de la plus grande antenne sont déchirées et volent au vent, elles claquent, il n'y a personne, des amas de débris partout, des ruines.
Je vais shooter dans le tas de débris.
Enfin, il y a quelques années, le lieu a été convoité par le cinéaste David Lynch, qui a voulu le racheter pour en faire une université invincible de la méditation transcendantale.
Je shoote dans un autre endroit.
Ce qui a pas mal fait frissonner les Allemands, vu l'université indestructible nazie qui se trouve en dessous de cette montagne.
Et encore dans un autre endroit. Le tas de débris. Ah, j'ai vu un rat.
David Lynch, ses maîtres et ses disciples bizarres n'auront pas l'autorisation.
Une souris.
Mais c'est pas étonnant que David Lynch, qui se plaît à effacer la frontière entre le rêve et la réalité, soit fasciné par l'aspect fantomatique de la montagne du diable.
Tu m'emmèneras dans les endroits où il y a des bruits bizarres ? Oui. Est-ce que tu as le vertige ?
Une station d'écoute fantôme.
C'est assez impressionnant quand même. Ça fait un peu peur. C'est très grand et il y a une sorte d'énorme boule en haut. On va monter tout en haut ? Ok, donc on rentre dans le bâtiment. Là, c'est un hangar. Complètement à l'abandon. Il y a des graphes partout, 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 incroyables, avec plein de couleurs, des poupées russes en graphes, des poupées russes qui font la gueule. C'est immense, c'est fait usine, quoi. Il y a des débris vraiment partout, partout, partout. Donc on va dans la troisième boule qui est, je sais pas, 20 mètres au-dessus de nous. Ça se dégrade. Ouais. Il y a combien de... On en a encore combien ?
Je crois un ou deux.
La boule qui n'en finit pas. Oh, j'ai peur. Oula. On est au sommet. On est tout en haut. Et on est dans la boule. Et c'est assez flippant. C'est assez flippant, j'ai dit. Si je me mets au milieu, il y a un point de convergence des sons. Alors attends. Je vais monter par là. En fait, il y a un bloc de béton au milieu et je vais monter dessus. Je me mets là. Les cathédrales n'ont rien à envier à la boule des Américains pour recevoir les informations des Russes. Cet effet véritable, sans électricité, sans rien. Je suis dans la boule et ça résonne. Juste une boule ronde et environ 7 mètres au-dessus de ma tête. Son.
Que c'était mieux juste après le mur, que les punks étaient plus frais et les lieux plus purs, que tout le monde se mélangeait à toute allure cette nuit-là. Nous étreignons n'importe quelle toute petite lumière à tour de corps et de bras. On dit toujours que c'est c'était bien mieux avant. Mais la vie est encore là béante, tout autant. C'est la vie des hommes qui prend des coups dans le ventre. On les retrouve à quatre pattes dans les boutiques du centre. All you saw was still blazing and blazing. My two hands are still moving and waving. Frédéric Chang is still charming, oh so charming.
Oh Lord,
better than me, the sweet little belly night. Mais tous ceux qui te faisaient vivre, où sont-ils passés? Ceux qui te nourrissaient quand tu tournais autour de moins de degrés. Ceux qui le long du mur restant s'étaient échoués là, dans les vapeurs de skunk lesbiennes, fiers de te voir danser et chanter comme ça.
Radio Canu présente.
À quel âge tiens-tu déjà ?
Méga et Combi.
Je sais pas. 3, 4.
2 ans qui sont darons.
Bon, après, la naissance, c'est la naissance. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas grave si on te rappelle pas. L'important, c'est le présent, quoi.
Absolument, ouais, non.
Les darons, saison 3.
Ah, moi, je suis cool avec ma fille. Hein.
Ouais.
Ouais, moi, je la laisse faire tout, en fait, quoi. Elle monte sur la table. Fais le 3 slam dans le canapé, en mangeant des bonbons, en se roulant par terre.
Bah, t'as raison. Hein.
Un peu nouvelle éducation. Tu vois, tu laisses free, quoi.
Tu as fait des caprices un peu
déjà. Ouais, mais alors les caprices, ça passe pas, par contre. Hein.
Ah ouais?
Ah ouais, les caprices, c'est une heure dehors, quoi.
Ah, tu la mets une heure dehors?
Ouais, je la mets une heure dehors, quoi. Ouais, je trouve ça simple, pratique, puisque comme ça, t'as une heure tranquille.
Putain, aussi. Mais ouais, non, mais t'as raison. Moi qui a pris, c'est moi qui sors en fait.
Ah, c'est toi qui sors?
Ah ouais, je vais dans la piole. Je fais sur internet, j'attends que ça passe quoi. Enfin, je les laisse gérer entre elles. Puis j'entends, tu vois, une fois que c'est fini, je reviens.
Il n'y a plus de bruit du coup.
Il n'y a plus de bruit, je reviens. Donc comme ça se passe bien.
Logique.
Et du coup, Eva, elle me dit, mais tu pourrais m'aider, mais. Aider à quoi en fait?
Genre, ça annonce sa chambre, elle cogne un peu à la porte, puis voilà, au bout d'un moment, elle se calme.
Nous, quand on la punit, on la met dans un placard. Enfin, moi, je la mets dans un placard, on dirait.
Ah bah ouais, mais ça, c'est mieux. Hein. Je suis pas dur, je suis ferme.
Enfin, moi, je sais que jamais je lèverai la main sur ma fille.
Non, mais moi, jamais je mettrai une claque. Mais jamais. C'est de la torture. Hein.
Non, puis c'est un coup avoir des emmerdes, surtout.
Ouais.
Moi, je sais que si je dérape, sa mère, elle me dénonce direct.
Les darons.
Alors, je crois que je lui ai mis un bip directement.
Les darons.
Elle a flippé à un moment donné, elle lui a mis un bip.
Elle a flippé que tu la frappes.
Ouais, elle a flippé, ouais.
quoi, elle a mis un bip, ça l'appelle direct SOS enfant battu.
Méga et Combi, deux ans qui sont darons.
Non, mais faut laisser free, hein.
Ah, faut laisser free, hein. Free à fond, quoi.
Free children,
quoi. Free children.
Et les mères sont toujours là.
Ça y est, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. Ça y est, c'est fini.
Putain, les auditeurs, j'ai vachement aimé ce moment avec eux.
Méga combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi.
C'est la fin.
La combi.